Au sommaire de cette édition, le Premier ministre Jean Castex qui rend hommage à Nice aux trois victimes de l'attentat au couteau du 29 octobre dernier et promet, je cite, de lutter contre l'islamisme radical. La disparition d'une figure du Collège de France, Jean Glowinski, considéré comme le père de la pharmacologie biochimique, son portrait avec Sarah Ders. En Éthiopie, de violents combats dans le Tigré et la dissolution par Addis Abeba du Parlement régional et de l'exécutif régional, précision de Noé Hochet-Bodin. Au Haut-Karabakh, les difficultés lourdes rencontrées par les combattants indépendantistes, correspondance de Moscou. L'élection présidentielle américaine dynamique favorable aux démocrates, Joe Biden renouvelle son appel à la patience. Donald Trump dénonce un scrutin volé et les partisans des uns des autres campent devant les convention centers des cinq États décisifs. Mathilde Dehimi est à Philadelphie. Enfin, la bulle écho de ce samedi, signée Marie Viennot, dédiée au quatrième projet de finances rectificatif du gouvernement. Un hommage national pour à tout le moins aider les proches de victimes du terrorisme à faire le deuil. Ce matin, au sommet de la colline du Château à Nice, chansons et poèmes ont résonné à l'initiative des familles des trois personnes tuées le 29 octobre dernier, deux femmes et le sacristain de la basilique de l'Assomption. Le Premier ministre Jean Castex a pris la parole en présence de trois membres du gouvernement, Simon Soubieux.
Trois visages souriants, les portraits des trois victimes, Nadine, Simone et Vincent, sont déposés sur l'esplanade devant la Méditerranée. L'Ave Maria est jouée par le violoncelliste Gauthier Capucion. L'émotion est forte pour les familles des victimes. Une Marseillaise est entonnée, puis le maire de Nice, Christian Estrosi, s'installe au pupitre.
Chère Simone, chère Nadine, cher Vincent, je veux partager avec vous cette belle journée et vous dire sous ce ciel niçois que vous aimiez tant à quel point aujourd'hui vous nous manquer.
C'est ensuite au tour du Premier ministre Jean Castex de prendre la parole.
Les prières d'une mère de famille ne condamnent pas à mort. Des cierges allumés ne condamnent pas à mort. C'est la France qui chaque fois est la cible du terrorisme. Mais Nice aura payé un lourd tribut. Et je suis venu aujourd'hui dire aux Niçois mon émotion, ma compassion et mon indignation.
Les trois victimes sont ensuite décorées à titre posthume de la médaille nationale aux victimes du terrorisme. À la fin de la cérémonie, une touche d'espoir et d'optimisme, les portraits des trois victimes quittent la colline du château de Nice sur l'air d'Un merveilleux monde de Louis Armstrong.
Simon Soubieux à Nice. La pandémie en Europe, avec deux pays en reconfinement depuis peu, l'Italie depuis hier soir et jusqu'au 3 décembre, de nouvelles zones dites rouges ont été répertoriées. La Lombardie, le Piémont, le Val d'Aoste et la Calabre et la Grèce, à compter d'aujourd'hui et pour trois semaines, à la différence du premier confinement, les écoles maternelles et les écoles primaires restent ouvertes. L'une des inconnues liées à cette pandémie est non des moindres. Quelle santé psychique prêtée à des populations privées d'horizon en raison de cette crise sanitaire. Une des réponses peut être la consommation de psychotropes qui peut aider justement à aider les pouvoirs publics à prendre la mesure des difficultés. Ces psychotropes qu'un éminent neurobiologiste a étudié, tout comme la pharmacologie du cerveau. Jacques Glowinski, dont on a appris la disparition ce matin, était, je cite, un savant exceptionnel qui a marqué des générations de chercheurs. Salut le Collège de France, Sarah Ders.
Rien ne prédestinait Jacques Glowinski, cet architecte du cerveau, à devenir l'un des pères de la neuropharmacologie biochimique en France. L'enfant de Clignancourt a d'abord songé à rentrer dans l'industrie, mais très vite c'est la recherche qui l'inspire, la recherche autour de la première classe d'antidépresseurs. Celui qui a fait ses armes aux États-Unis aux côtés de Julius Axelrod, prix Nobel de médecine en 1970, comprend à ce moment-là l'importance de la neuropharmacologie, en d'autres termes, la science qui étudie l'incidence des médicaments sur le système nerveux central. Rien ne destinait non plus Jacques Glowinski à devenir professeur au Collège de France dès 1982, où ce passionné d'architecture créa un laboratoire de renom autour de cette recherche sur laquelle il n'a cessé de travailler. Ses travaux ont ainsi permis de rejoindre les deux disciplines que sont l'étude du cerveau et la pharmacologie et de comprendre comment certains psychotropes, antidépresseurs, anxiolytiques, auparavant utilisés à l'aveugle, agissaient sur cet organe. Il joue notamment sur le métabolisme de la dopamine dans le cerveau avec des techniques très modernes pour l'époque, l'utilisation des isotopes radioactifs. 50 ans de recherche donc pour mieux comprendre les humains, avec toute une équipe de chercheurs soudés, la famille Glow, qui salue une dernière fois ce chimiste du cerveau.
Merci à vous Sarah Ders. C'est le 18 mars 2010 sur France Culture, La Marche des Sciences par Aurélie Luneau. Scénario pour une fin du monde, si vous voulez écouter la voix et les propos de Jacques Glowinski, il était invité de cette émission. La guerre dans la région du Tigré en Éthiopie, le Parlement d'Addis Abeba approuve dans la matinée la nomination d'un gouvernement intérimaire via, et ce sont les termes employés par la télévision publique éthiopienne, via une résolution visant à révoquer l'assemblée régionale illégale actuelle du Tigré et son gouvernement. Aucune information officielle n'est disponible sur les opérations en cours. Abiy Ahmed évoque tout à la fois une opération de maintien de l'ordre et la nécessité de frappes aériennes. Deux sources diplomatiques, elles, font état d'activités militaires sur les principaux axes reliant le Tigré à la région frontalière Amara. Le point à Addis Abeba avec Noé Ochebaudin.
Jeudi déjà, des avions de combat avaient été entendus dans le ciel de Mekele, la capitale du Tigré. Abiy Ahmed le confirme, l'armée a mené des frappes aériennes avant de préciser qu'elles ont uniquement visé les positions du TPLF, le parti tigréen. Principalement des dépôts d'armes à Mekele et dans ses environs. Selon lui, ces frappes sont préventives pour éviter l'utilisation d'artillerie lourde par les forces tigréennes, des forces qui seraient composées de 250 000 hommes, selon certains observateurs. Hier, le Premier ministre a demandé à la population de ne pas rester cantonnée dans les villes et qui seront ciblées par ces bombardements. Un appel dans le vide si l'on considère que les Tigréens sont coupés du monde depuis mercredi matin. En effet, les réseaux internet et téléphoniques sont bloqués. Ces bombardements sont une escalade de plus, probablement le point de non-retour dans ce conflit. Le gouvernement a déjà signalé qu'il ne souhaitait pas négocier. Pourtant, les appels au cessez-le-feu se sont succédés, y compris de la part du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
En Côte d'Ivoire, le porte-parole de l'opposition, Pascal Affi N'Guessan, arrêté la nuit dernière près de la frontière avec le Ghana. Il était en fuite, selon une source gouvernementale. L'opposition qui avait boycotté la présidentielle du 31 octobre dernier, dont elle ne reconnaît pas le résultat, avait lancé une campagne de désobéissance civile avant le scrutin et annoncé la formation d'un Conseil national de transition après l'élection. Dans le Haut-Karabakh, de lourdes pertes ces derniers jours dans les rangs des combattants indépendantistes. Les forces azerbaïdjanaises ont en effet atteint la cité historique de Choucha, objectif majeur de l'offensive lancée le 27 septembre par Bakou. Et ces mêmes forces ont coupé à deux endroits la route qui relie à l'Arménie, la capitale du Haut-Karabakh, Stepanakert. Les précisions à Moscou de Jean-Didier Revoin.
Les forces azerbaïdjanaises poursuivent leur offensive sur la ville de Choucha, située sur des hauteurs au sud de Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Cette localité stratégique donne à celui qui la contrôle l'accès à l'ensemble du territoire de la province. Un objectif sur lequel Bakou a concentré ses efforts depuis quelques semaines. Son but, récupérer les territoires perdus au terme du premier conflit en 1994. Au-delà, l'Azerbaïdjan espère également parvenir à contrôler le corridor de Lachin, la route qui relie la province à l'Arménie. Si les combats font rage depuis plusieurs jours. L'armée du Haut-Karabakh assure de son côté conserver le contrôle complet de Choucha, surnommée aussi la Jérusalem du Haut-Karabakh. Dans la semaine, les Nations Unies ont évoqué de possibles crimes de guerre en raison d'attaques indiscriminées contre les populations civiles et de vidéos jugées crédibles montrant des exécutions de prisonniers de guerre arméniens. Sergueï Narychkine, le patron du renseignement extérieur russe, a fait savoir que les services turcs étaient impliqués dans ces combats au vu d'éléments distinctifs décelés par ces hommes. Mais la Russie, liée à l'Arménie par un pacte militaire, a déjà fixé une ligne rouge. Elle n'interviendra militairement aux côtés d'Erevan qu'à la seule condition que des combats se déroulent sur le sol arménien, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Depuis la reprise des hostilités le 27 septembre dernier, Vladimir Poutine a estimé que le conflit avait fait plus de 5000 morts.
Venons-en à l'élection présidentielle américaine. Joe Biden, qui s'est brièvement exprimé dans la nuit, ne cesse d'appeler au rassemblement en prenant soin de ne pas revendiquer la victoire. Donald Trump, de plus en plus seul, deux des principaux médias conservateurs, la New York Post et Fox News, ont pris leur distance il y a quelques heures avec le candidat républicain. Donald Trump dénonce toujours un scrutin volé. Tout se joue dans 5 États décisifs, Nevada, Arizona, Caroline du Nord, Géorgie et Pennsylvanie. Dans cet État qui fournit au candidat 20 grands électeurs, comme dans les 4 autres, deux Amériques se font face, moyennant quelquefois des sound systems. C'est un reportage à Philadelphie de Mathilde Dehimi.
Chaque sono crache les décibels pour empêcher l'autre de s'entendre. Devant le centre de dépouillement, 200 démocrates font face à une dizaine de partisans de Trump protégés par trois rangées de policiers. Mais il ne faut pas se fier au nombre, dit Axel.
Il y a plein de supporters de Trump, mais le truc c'est qu'ils ne le disent pas et restent silencieux. Beaucoup ont peur de prendre la parole. Il y a plus de gens que vous croyez. Ils ne sont juste pas là.
Joe Biden est passé en tête en Pennsylvanie, mais Axel ne doute pas du résultat, même s'il se fait attendre.
À chaque jour suffit sa peine, il n'y a rien de neuf. Si Biden passe, ça ne changera pas ma vie. J'aimerais que Trump reste, car il a fait beaucoup de bonnes choses. Mais contrairement à ceux d'en face, je ne serais pas en colère si Biden gagne. Je serais déçu qu'il ait dû tricher pour gagner. Bien sûr qu'on doit aller en justice, car il triche.
James a traversé le pays, du Colorado vers la Pennsylvanie, quand il a su qu'une partie de l'élection se jouerait ici, sous de voir le dépouillement se dérouler dans de bonnes conditions.
Je suis le genre de gars qui a toujours foi en l'avenir, mais je pense que si on a une présidence Biden-Harris, ça sera traumatisant pour ce pays. Ça va causer beaucoup de souffrance, y compris pour ceux qui ont voté pour eux.
Les deux partisans de Donald Trump sortent tranquillement du dispositif policier sans être ennuyés par le camp d'en face.
Et alors qu'il est, Joe Biden compte 253 grands électeurs contre 213 à Donald Trump. Il en faut, rappelons-le, 270 pour remporter le collège électoral et être déclaré président élu.
La bulle économique. Marie Vienneau.
Le gouvernement a présenté cette semaine son quatrième projet de finances rectificatif. Quoi qu'il en coûte, ce sera combien, qui paiera et quand? C'est le thème de la bulle éco.
Tout sera mis en œuvre, quoi qu'il en coûte.
Souvenez-vous, c'était en mars, à l'annonce du premier confinement. Quoi qu'il en coûte, la formule empruntée par le président de la République à Mario Draghi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, devint pendant quelques semaines un mantra repris par tous les membres du gouvernement. On ne l'entend plus beaucoup ces derniers temps, alors que l'incertitude grandit sur la facture de la Covid-19. Pour l'année 2020, on sera fixé l'été prochain, quand la loi de règlement clôturera les comptes. Une chose est claire d'ici là, plus l'année avance, plus le quoi qu'il en coûte, coûte. Entre le premier budget rectificatif présenté en mars et le quatrième qui vient de l'être, on est passé d'un coût annoncé de 15 milliards d'euros à 186 milliards. Mais c'est un chiffre à minima qui ne tient pas compte des prêts que l'État a garantis pour les entreprises. Or, garantie par l'État, cela veut dire que si l'entreprise ne peut pas rembourser, c'est l'État, donc le ou la contribuable, qui le fera à sa place. Quoi qu'il en coûte, en 2020, ce sera plus que 186 milliards, on peut l'affirmer sans prendre trop de risques. Plus difficile est d'estimer ce que cette crise va coûter aux agents privés. Car malgré les aides de l'État, il y aura des faillites. 100 000 à 150 000 chefs d'entreprise vont disparaître, s'alarme dans une tribune au Monde le président de la garantie sociale des chefs d'entreprise. Or, seulement 1% d'entre eux ont un filet de sécurité. Comment chiffrer aussi les pertes de revenus pour les précaires, CDD, étudiants, pour qui les perspectives d'embauche sont quasi nulles dans les mois prochains? Et comment chiffrer enfin tout ce qui est inquantifiable, la détresse sociale, psychique, physique, liée à la restriction des rapports humains et la fermeture des lieux où le corps exulte ou exultait. Ce qui est bien quantifiable en revanche, c'est la dette qui va résulter de ce quoi qu'il en coûte intégralement financé par emprunt. Avant la crise sanitaire, la France devait emprunter 230 milliards en 2020 pour boucler son budget. On passe à 360 milliards d'euros dans le quatrième projet de budget. 360 milliards qui vont s'ajouter aux 1 800 milliards de dettes qu'avait déjà la France fin 2019. Aucun stress à avoir cependant, la Banque Centrale Européenne en rachète une bonne partie et la France passe toujours pour un investissement peu risqué aux yeux des marchés financiers. Mais il faut quand même les rassurer. Alors à chaque fois qu'il en parle, comme cette semaine devant les députés, le ministre des Finances martèle
« Cette dette, je tiens à le redire, elle devra être remboursée le moment venu. »
Quand viendra ce moment, nul ne sait. Une fois que la reprise sera bien engagée, conseille le FMI dans un rapport sur la France. En attendant, Bercy va créer un groupe de travail d'experts chargé de réfléchir à des scénarios de redressement sur 5 à 10 ans. Les économistes opposés au retour de l'austérité en feront-ils partie pour qu'il y ait un minimum de débat ? Ce serait une vraie surprise quand on voit la liste de ceux et celles qui sont consultés par Bercy depuis le début de la crise en mars. On n'y trouve aucun membre de l'économie hétérodoxe, aucun spécialiste des liens entre écologie et économie, aucun intérêt et bien sûr aucun de ceux et celles qui plaident pour l'annulation d'une partie des dettes publiques. Si le quoi qu'il en coûte fut une brèche dans la doxa du gouvernement, ouvrir les vannes de la dépense publique lui est, semble-t-il, plus facile que d'ouvrir le débat à des avis divergents. Pourtant, cette ouverture ne coûterait rien, elle n'endetterait personne, et les efforts consentis quoi qu'il en coûte pendant les confinements seraient plus supportables s'il y avait au moins un petit peu de pluralisme dans la réflexion.
Ainsi se referme cette bulle économique. Merci à vous, Marie Viennot. Le temps de l'après-midi, marqué par une perturbation arrivée par le sud-ouest, de fortes pluies vers le Languedoc, le Gard et l'Hérault, classés en vigilance orange. Température maximale comprise entre 11 et 21 degrés. Ce journal a été préparé avec Julien Lequet à la technique, Nasser Moussaoui.